France Culture. Grand reportage, Mathieu Laurent.
Dans la gestion au quotidien d'une ville, on n'est pas dans un clivage droite-gauche. On est dans un clivage de servir ou de ne pas servir ses habitants.
Un élu qui fait bien son travail et qui est sur le terrain toute la journée, il rencontre beaucoup de gens qui lui parlent, qui lui donnent des idées. C'est pas besoin de se faire dans un cadre conventionnel en organisant des réunions publiques.
Ben moi je suis pas trop votant en vrai, ouais, je vote pas trop, mais pour ça ouais, le budget participatif, je trouve que c'est bien, ça reste proche des gens quoi, y a pas trop de fou en vrai.
Ouvrons cette émission avec à l'esprit une louable intention au service d'une impeccable ambition, régénérer, renouveler la démocratie. La démocratie représentative, ce n'est pas nouveau, est en crise, crise généralisée qui frappe toutes les structures de médiation, fracture ouverte, effondrement de la confiance. Et pourtant, la démocratie participative, censée réirriguer le champ politique traditionnel, n'a jamais été aussi cultivée. À quelles difficultés se heurte la généralisation, la marchandisation des expériences de démocratie participative? Est-ce là un gadget, une ligne de cosmétique qui viennent lustrer discours et professions de foi? L'abstention campe au sommet, questions urgentes à la fin du mois. Les gouvernements nationaux affronteront de nouveau le désintérêt des citoyens pour l'Europe. La démocratie participative, délibérative, telle que pratiquée, telle que saupoudrée, selon ses détracteurs, échouerait à réparer les liens. Qui prend part aux forums sociaux, conseils économiques et sociaux, conseils de développement, conférences citoyennes? Qui anime ces estrades? Faut-il y inclure le grand débat national ou encore l'assemblée des assemblées de Commercy? La question de la prise en charge par la société civile de ses propres affaires a son histoire et ses variantes. Mais nous n'oublierons pas de sculpter les expériences de nos contemporains européens avec en tête cette phrase du philosophe allemand Peter Sloterdijk. Dans une démocratie représentative, les citoyens servent en premier lieu de fournisseurs de légitimité au gouvernement. C'est pour cette raison que, à intervalles espacés, ils sont invités à exercer leur droit de vote. En revanche, entre les scrutins, c'est avant tout par leur passivité qu'ils peuvent se rendre utiles. Budget participatif, l'outil démocratique qui séduit? Un reportage d'Ilan Malka. Et bonsoir à vous, Marion Roth.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venue nous rejoindre ici dans ce studio. Vous êtes directrice du think tank Décider Ensemble. Et bonsoir à vous, bien sûr, Ilan Malka.
Bonsoir, Mathieu.
Ilan, sans tarder, quelques mots peut-être des escales de votre reportage.
Oui, donc je me suis intéressé à cet outil démocratique bien en vogue, qu'est le budget participatif. De plus en plus de villes en France le mettent en place. Ces villes, donc concrètement, ouvrent une partie de leur budget aux habitants de la ville. Bon, par exemple, 5% du budget de la ville va financer des idées, des propositions qui émanent directement des citoyens eux-mêmes. Ça peut être réaliser une salle de sport ici, un centre d'accueil pour sans domicile fixe là, par exemple. Pour certains, c'est un vrai progrès démocratique, mais pour d'autres, c'est un trompe-l'œil, donc j'ai eu envie d'aller voir un petit peu ce qu'il en était. Je me suis arrêté dans 4 villes qui mettent en place le budget participatif: Grenoble, Belfort, Jarny et Metz. Donc le reportage s'ouvre à Grenoble avec un bon exemple de ce que peut faire un budget participatif. Nous sommes sur la place Saint-Bruno, un endroit de la ville qui a longtemps été un peu désert, abandonné, mal fréquenté, mais qui depuis 2 ans a repris vie. Ce qui a changé, l'installation de la Dragonne, un grand jeu pour enfants très apprécié. C'était une idée justement d'une habitante dans le cadre du budget participatif de la ville. Et on va commencer par entendre Farida qui vient régulièrement maintenant sur cette place avec le petit garçon qu'elle garde.
Eh bien, on l'écoute dans votre reportage.
Eh ben, je trouve que la Dragonne, elle est magnifique. Les enfants l'adorent. Et ils disent, on va voir la Dragonne comme ils disent, on va voir le Ali, l'éléphant du muséum. Ça a été fait, on l'a vu se construire. C'était il y a 2 ans, je crois. Et c'est un jeu que j'ai jamais vu. Enfin, franchement, tout le monde l'adore, les parents, les enfants, et les parents qui viennent de très loin pour voir la Dragonne.
C'est une sorte de toboggan en forme de dragonne, avec aussi des lieux pour faire un peu de l'escalade.
Ouais, des cordages et puis des super textes. Moi, je les lis tout le temps et c'est très poétique.
Qu'est-ce que ça apporte au quartier, vous diriez?
Petit à petit, en fin de compte, ce quartier-là a repris vie. C'est-à-dire qu'il a su mettre un jeu en bois avec des cordages et les enfants ont pris possession du quartier.
La Dragonne a été réalisée dans le cadre du budget participatif de Grenoble. Chaque année, la ville ouvre une part de son budget à des projets conçus et portés par les habitants eux-mêmes. Ils sont invités à présenter leurs idées qui ensuite sont soumises au vote des Grenoblois. Les propositions sélectionnées par le vote sont ensuite réalisées par la ville. Par exemple, la Dragonne, c'est au départ une idée de Joël Bonniguen.
C'est parti d'une réunion qui a eu lieu à la Maison des Habitants, pas très loin dans le quartier. Et à la fin de la réunion, une personne de la ville nous a dit bah « voilà, ça va être la première édition du budget participatif ». N'hésitez pas à proposer des choses, à présenter des projets. Et ça a fait vraiment un tour dans ma tête. Je me suis dit, tiens, faudrait vraiment présenter quelque chose pour ce square-là qui est complètement inhabité, désert. Et voilà, et je me suis dit qu'une aire de jeu, ça serait sympa. Donc voilà, ça a démarré comme ça, en fait. On a été plusieurs à travailler sur ce projet. En fait, je me disais que c'était bien de le faire de manière collective.
Ça a été réalisé en combien de temps ?
En 2 ans. En fait, le projet a duré 2 ans. Parce que il fallait que ça passe déjà le stade de la faisabilité, que ce soit voté par les Grenoblois. Et puis après, toute une phase technique, des réunions aussi en groupe de travail, parce qu'on a imaginé, il y a eu des groupes de travail. L'idée aussi, c'était vraiment d'associer les habitants, leur demander leur avis sur le type de jeu qu'ils souhaitaient, sur le type d'animal. Au final, il n'y avait plus que 3 projets. Il y avait un ours, une dragonne et un cerf. Et en fait, c'est la dragonne qui l'a emporté, on va dire, au niveau du sondage qui a été fait auprès des habitants et des enfants. C'est vraiment elle qui les a tirés le plus.
Le jour de l'inauguration, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous vous en souvenez ?
Oh là là, mais moi, l'image que j'ai le jour de l'inauguration, c'est des dizaines et des dizaines d'enfants, pour ne pas dire des centaines, qui, au moment où le cordon a été coupé, se sont jetés sur la dragonne. Et ça, c'est, pour moi, c'est une image que j'oublierai jamais. En fait, c'est ça. C'était de voir tous ces enfants qui étaient fous de joie à l'idée de pouvoir jouer sur la dragonne. C'est un lieu de rencontre pour plein de gens, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour des personnes âgées qui viennent, qui s'assoient sur le banc, qui regardent les enfants jouer. Enfin, c'est super, quoi.
Vous aviez déjà mené des projets comme ça avant ou c'était la première fois de votre vie ?
La première fois.
Aucune initiative citoyenne, jamais ?
Non, même si je m'intéressais beaucoup à ce qui se passe dans mon quartier, que j'assistais régulièrement à des réunions diverses et variées, mais non, après, de là à proposer quelque chose, disons que jusqu'à présent, je crois qu'on n'avait pas eu l'opportunité de le faire. Donc voilà, moi je me suis dit, c'est une belle opportunité, il faut la saisir. C'est vraiment ça, je me suis dit, c'est un outil que les citoyens peuvent utiliser, et il faut vraiment qu'ils s'en servent de cet outil. Même si on pourrait se dire, bon, mais le budget participatif, c'est un pouillème du budget de la ville de Grenoble. Ben oui, mais en même temps, il a le mérite d'exister, donc bon, utilisons-le.
Peut-on dire que la dragonne a réglé tous les problèmes de la place ? Non, on ne peut pas aller jusque-là. Chloé habite Grenoble depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette dragonne, au quartier, à votre avis ?
Elle a complètement changé l'usage de la place. Nous, les premiers, on n'amenait pas nos enfants dans ce square parce que c'était plutôt un dépotoir et des crottes de chiens. Aujourd'hui, vous pouvez voir le nombre de gamins qui jouent dès qu'il y a un petit rayon de soleil ou qu'il ne pleut pas. Il y a toujours du monde. Il y a beaucoup de familles qui ont réinvesti Saint-Bruno. Mmh. Tout le monde allait à Marliave, qui est 200 mètres plus loin, qui est un super parc. Mais voilà, là, on est à la sortie de l'école. Tous les copains se retrouvent ici et ça a vraiment changé. Par contre, les dealers étaient là avant, ils sont toujours là. Voilà, ça cohabite, c'est deux mondes un petit peu différents qui cohabitent avec plus ou moins de bonheur. Hein. Voilà, hier par exemple, il y avait des gros pétards partout. Ça a lancé, d'un fois, ils faisaient un barbecue quasiment au pied du toboggan. Il a fallu que ce soit des mamans qui aillent leur dire peut-être que c'est un petit peu près des enfants qui jouent là. Mais voilà, là-dessus, ça les a pas délogés, ils sont toujours là. Mais... En tout cas, il y a d'autres. Ça permet quand même aux familles d'investir le lieu et d'être là à côté, ce qu'elles ne faisaient pas avant. Ça commence par là, c'est réinvestir l'espace public, se le réapproprier. Avant, je pense qu'il y a des gens qui disaient à leurs enfants « ne va pas dans le square Saint-Bruno, ça craint, c'est sale, il y a des bouts de verre, il y a des gens qui boivent, qui fument ». Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait... Peut-être, hein, mais en tout cas, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Je pense que les parents ne disent plus aux enfants « ne va pas à Saint-Bruno ». Au contraire, la dragonne, c'est devenu vraiment un symbole du quartier. Les gamins l'identifient vachement. Enfin, c'est très emblématique de Saint-Bruno maintenant. Il y a le marché et la dragonne.
L'idée du budget participatif a été amenée à Grenoble par le maire Éric Piolle, Europe Écologie Les Verts, élu en 2014. 800 000 euros de budget sont ainsi prévus dans ce cadre pour quelque 158 200 habitants, ce qui représente à peu près 5 euros par habitant. C'est dans la moyenne des budgets participatifs en France. Éric Piolle a voulu faire de la démocratie participative l'un des enjeux forts de son mandat.
Nous avons travaillé pour voir comment s'entraîner à une démocratie concrète. Et de ce que nous avions vu dans des expériences à l'étranger, comme par exemple au Portugal avec Cascais, qui est une des villes qu'on a étudiées particulièrement, c'est que le budget participatif était un fil très facile à tirer, qui amenait beaucoup de choses, parce que ça, à la fois, ça décale un peu le processus de décision, hein, donc ça dit aux élus, vous ne pouvez pas tout, vous ne savez pas tout, donc l'initiative des habitantes et des habitants est importante. Ça permet d'avoir aussi une singularité dans la ville, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où petit à petit c'est aseptisé et toutes les villes se ressemblent. Donc là, en partant des habitantes et des habitants, de fait on retrouve de la singularité, une originalité, une culture finalement. Et puis ça transforme aussi le rapport entre les services et les habitantes et les habitants dans une logique de coopération et pas dans une logique de client-fournisseur. Et donc tout cela est vraiment intéressant. Donc il y a un engouement. L'année dernière, c'est plus de 1000 personnes qui sont venues lors du Forum des idées qui va avoir lieu là très bientôt. Plus de 1000 personnes qui sont venues porter leurs projets, débattre, croiser. Et puis on retrouve des jeunes qui portent des projets, des sans-abri qui portent des projets. C'est-à-dire le projet qui a gagné l'année dernière, c'est un lieu d'ouverture et d'échange qui a été conçu et porté par des gens en situation de grande précarité. On retrouve plein de projets autour du climat, hein, que cela soit des toits de l'agriculture urbaine ou des toits peints en blanc ou des nichoirs. Là, on est en train de poser 500 nichoirs qui ont été portés, conçus, fabriqués par des habitantes et des habitants avec la Ligue de protection des oiseaux.
Dans vos engagements municipaux, il y avait cette idée effectivement très forte de démocratie participative. Qu'est-ce qui explique ce succès, justement, à votre avis, du budget participatif par rapport aux autres systèmes de démocratie participative qui ont l'air peut-être moins efficaces parfois, en tout cas, je parle au niveau de la France.
Je ne sais pas si c'est moins efficace. Là, dans les budgets participatifs, c'est concret. Et donc, s'il peut y avoir au début un peu de frivolité, en fait, année après année, on voit que les projets sortent pour de vrai. Et on voit leur originalité pour de vrai. Et donc, finalement, ça fait envie. On se dit, tiens, nous aussi, on peut faire un skatepark, on peut faire un jardin de biodiversité où on peut prendre l'apéro en luttant contre le réchauffement climatique, un endroit où on soit un peu préservé. Là, j'en avais inauguré un, là, il y avait à 6 degrés d'écart entre la rue qui était juste à côté et le cœur du jardin. Donc, c'est concret, donc effectivement, ça se diffuse. Il y a d'autres choses qui ont très bien marché. Qui, par exemple, le plan école, donc c'est plus d'un tiers de notre investissement, c'est sur les écoles, qui a été conçu avec l'ensemble des acteurs éducatifs, parents d'élèves, enseignants, directeurs, personnels, pendant 10 mois, 11 mois, pour arriver à un consensus sur combien d'écoles il fallait, où il en fallait. Donc il y a d'autres espaces qui marchent bien. On a tous évidemment en tête en ce moment les référendums d'initiative citoyenne ou les votations citoyennes. Ici, on avait voulu en mettre en place une, mais on a été attaqué par le gouvernement puisqu'il était ouvert à la fois aux mineurs et également à l'ensemble des habitantes et des habitants, quelle que soit leur situation administrative. Donc ça, le gouvernement a jugé que c'était une atteinte à la démocratie de décaler, de déléguer cette décision des élus et le déléguer en plus à des mineurs ou à des étrangers, voire à des étrangers en situation irrégulière. Ça, c'était une atteinte inadmissible pour eux. Donc on a perdu en première instance au tribunal, mais nous sommes en appel.
On peut dire quand même que le budget participatif est ce qu'il y a de peut-être plus simple à mettre en œuvre au niveau démocratie participative.
Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Oui.
À Grenoble, le budget participatif ne fait pas pour autant l'unanimité. Stéphane Gemani est conseiller régional, il est membre de Cap21 et très possible candidat à la mairie de Grenoble en 2020. Pour lui, le principe est bon, mais l'application pose problème. Il affirme que ceux qui proposent des idées sont pour l'essentiel toujours les mêmes, en majorité des gens issus des classes moyennes supérieures.
Il y a une certaine mixité, mais c'est vrai que si on avait à faire de façon quantitative, on s'aperçoit quand même que c'est cette catégorie qui est la plus investie et qui va formuler le plus de projets. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont plus de temps que les autres ? Est-ce que dans le certain confort qu'a cette classe, ils peuvent se permettre des choses que d'autres ne peuvent pas parce qu'ils ont d'autres préoccupations qui sont plus terre à terre ? Certainement. Après, moi, j'ai vu quand même des projets très intéressants sur des laveries solidaires qui étaient orchestrées par des gens qui étaient de conditions humbles et qui le faisaient aussi parce qu'ils se sont aperçus que dans leur environnement, il y avait un déficit de machines à laver, tout simplement. Avoir une machine à laver, c'est coûteux. Les produits d'entretien, c'est coûteux. Et que certaines personnes faisaient l'impasse parfois sur leur propre hygiène là-dessus. Donc, il y en a certains qui se prennent en charge, mais c'est pas forcément toujours ces projets qui arrivent en haut du panier.
Alors, il y a le vote aussi, hein.
Oui, mais le vote, il y a, comment dire, le vote se fait parfois même de façon très politicienne, très électoraliste et très même dans la corporation des personnes qui ont peut-être même voté pour le maire en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve parfois et souvent des projets qui sont portés par des gens qui sont dans cet entourage-là et qui fonctionnent de la même façon qu'une campagne électorale. Et comme ils ont des facultés de mobilisation qui sont différentes qu'une personne lambda qui a un projet et qui a envie de le soumettre, eh bien, dans l'expression du vote, ça, à la fin, ça peut être tronqué. Parce que vous avez toujours les mêmes personnes qui se mobilisent. On a le même phénomène dans les unions de quartier, c'est-à-dire qu'on a les bénévoles de métier, des gens qu'on retrouve toujours dans ces instances un petit peu citoyennes, décisionnelles, etc. Et là, on les retrouve souvent dans ces dispositifs. Elles sont relativement proches les unes des autres et donc elles vont voter pour les projets qui sont portés par les amis. Et donc ça tronque, en tout cas mathématiquement, parce que la mobilisation, même si elle est croissante, elle n'est pas suffisante à l'échelle d'une commune comme Grenoble, fait qu'à la fin, bah, ce sont parfois les mêmes projets qui gagnent.
En France, ce sont 150 collectivités, villes ou départements notamment, qui ont adopté aujourd'hui le budget participatif. C'est la nouvelle idée politique en vogue, pourrait-on dire, principalement depuis 2014. Avant cette année-là, il n'y avait que 6 villes qui l'appliquaient en France. Depuis les dernières municipales, c'est donc un principe qui se répand partout à travers le pays. Revenons sur l'histoire de cette idée avec Julien Talpin, chargé de recherche au CNRS et spécialiste des questions de démocratie participative.
Alors tout a commencé au Brésil, dans la ville de Porto Alegre, donc qui est une ville au sud du Brésil, d'un million et demi d'habitants, qui est prise par le Parti des Travailleurs, le PT de Lula, même si c'est pas Lula qui est à la manœuvre à l'époque à Porto Alegre. Et il y a une réelle aspiration de démocratisation de la gestion municipale. On est quelques années après le retour de la démocratie au Brésil, et donc va s'inventer ce budget participatif qui va avoir des effets assez importants, puisque dans le cas de Porto Alegre, c'est assez vite l'intégralité du budget d'investissement de la ville qui va être mise à la discussion et la décision directe des citoyens de la ville, ce qui va avoir des effets donc de redistribution des ressources et des richesses, notamment en direction des quartiers les plus populaires de la ville. Et c'est ça quand même qui va beaucoup marquer les esprits, c'est que d'un côté, on a une participation populaire importante, on a plusieurs dizaines de milliers de participants qui, chaque année, s'investissent dans des assemblées locales et à l'échelle de la ville pour proposer des projets et formuler des propositions qui vont nourrir le budget et en faisant participer des gens un petit peu différents que les élus traditionnels, il y a des décisions différentes qui sont prises. Dans le cas de Porto Alegre, ça aura des effets par exemple sur la conversion de favelas en logements en dur, dans l'accès à l'eau potable aussi dans pas mal de quartiers, le développement de réseaux de transport en commun, des cours d'alphabétisation, si bien que des études ont été menées qui montrent qu'en termes d'indicateurs de développement humain, il y a un tournant avec la mise en place du budget participatif. Et donc cette expérience va faire modèle à la fois par sa capacité de démocratisation et puis sa capacité de redistribution des richesses et de développement de la justice sociale.
Et cette idée s'exporte donc d'abord dans quel pays ?
Alors d'abord au Brésil et en Amérique latine. Dans les années 90, on commence à s'y intéresser. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'à la fin des années 90, on a l'émergence du mouvement altermondialiste. Assez vite, Porto Alegre va organiser les premiers forums sociaux mondiaux et va apparaître un peu comme la capitale mondiale de la démocratie participative. Et ce qui va être l'occasion de populariser son expérience de budget participatif. Et dès cette époque-là, dès la fin des années 90, on a des militants et des élus plutôt de gauche à l'époque, notamment membres du Parti communiste, des Verts, un peu du Parti socialiste français, qui vont faire le voyage à Porto Alegre, qui vont découvrir le budget participatif et vont le ramener dans leur bagage.
Et alors la première ville française qu'il a adoptée, est-ce qu'on sait laquelle c'est ?
Alors c'est une petite ville de l'Essonne, Morsang-sur-Orge, ville de 20 000 habitants, de tradition communiste, qui est une ville donc qui est communiste depuis la libération, et en fait qui va voir comme pas mal de villes communistes de la banlieue rouge en fait son soutien électoral s'effriter progressivement. Aux élections municipales de 95, ils sont à deux doigts de perdre les élections. Il y a d'ailleurs une nouvelle une élection municipale qui est organisée à ce moment-là, parce que c'était très serré, donc il rencontre les voix. Bon, et donc, suite à ce résultat très serré, où au final le Parti communiste garde la ville, ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour reconstruire notre ancrage populaire, il faut qu'on ait une gestion municipale différente. Et donc, ils lancent ce budget participatif, qui va assez bien marcher, en fait, dans ce cas-là. Alors, c'est une petite ville, 20 000 habitants, mais un effet très concret, c'est qu'aux élections municipales suivantes, en 2001, la liste communiste est élue au premier tour, alors qu'elle était en ballotage 5 ans plus tard, et donc c'est bien qu'il y a quelque chose quand même qui s'est passé dans cette ville.
Donc 1995, l'idée arrive en France par une ville communiste. Aujourd'hui, vous disiez, on est à 150 villes qui le font. Est-ce que, alors, on a parfois tendance à penser que ce sont toutes des villes de gauche, mais ce n'est pas le cas?
Effectivement, c'est plus le cas, en fait. Au départ, le budget participatif était quelque chose quand même plutôt estampillé à gauche. Morsang-sur-Orge, mais il y a également eu Saint-Denis, Bobigny, pas mal de villes donc communistes du 93, mais pas seulement. On a une deuxième vague, en fait, au milieu des années 2000, qui est plus à l'échelle régionale, en fait. Alors, il y a Ségolène Royal qui va s'emparer du dispositif et qui met en place notamment des budgets participatifs dans les lycées. Et pas mal d'autres régions socialistes, en fait, vont s'emparer du budget participatif. Ça va un peu s'essouffler. Et à partir de 2014, donc, c'est repris par la mairie de Paris, toujours une ville socialiste. Bon, puis ça va se diffuser bien au-delà. Et aujourd'hui, on a une majorité de villes plutôt de gauche qui le mettent en place, mais on a aussi des villes de droite. Par exemple, la ville de Roubaix récemment a mis en place un budget participatif. On a même un budget participatif dans la ville de Béziers. Preuve que, au fond, toutes les tendances politiques s'approprient aujourd'hui cette idée, quand bien même, sur les 150 expériences, deux tiers sont portées par des villes de gauche.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre train arrivera en gare de Belfort.
Nous voici à Belfort, l'une de ces quelques villes françaises gérées par la droite qui ont adopté le principe. Damien Meslot, membre du parti Les Républicains, a été élu maire en 2014 et il a mis en place le budget participatif dans la foulée. 130 000 euros pour quelques 50 000 habitants, 2,60 euros par habitant.
Moi je pense que quand on est maire d'une ville, quand un trottoir est cassé, quand une structure est détériorée, quand il faut répondre à un besoin de la population, on regarde pas si les gens qui marchent sur le trottoir sont de gauche ou de droite. Si le trottoir est abîmé, on le répare. S'il manque une structure, on la met en place. Donc je crois qu'il faut sortir de ce schéma. Dans la gestion au quotidien d'une ville, on n'est pas dans un clivage droite-gauche. On est dans un clivage de servir ou de ne pas servir ses habitants, d'être à l'écoute ou de ne pas être à l'écoute. Et je pense que vous pourriez aussi bien trouver des maires de telle ou telle sensibilité qui font des projets participatifs et de cette même sensibilité qui n'en font pas. Donc moi, je refuse ce clivage au niveau d'une ville. Je pense qu'au niveau d'une ville, on est plus dans la proximité, dans le rassemblement que dans des clivages. Donc je trouve que ça a peu de sens de regarder le budget participatif au regard d'un clivage entre des sensibilités politiques.
Dans les rues belfortaines, je demande aux passants ce qu'ils pensent du budget participatif. Peu de gens connaissent.
Non, je ne connais pas. C'est une participation, c'est quoi? C'est les usines, c'est les...
Non, c'est dans la ville, c'est la ville de Belfort, en fait, qui fait un budget participatif pour que les gens puissent monter des projets eux-mêmes.
Ouais, c'est pas mal, c'est valable. Tant mieux. Il faut prendre exemple sur Belfort, en tout cas, voilà quoi.
Merci. Seul Stéphane sait vraiment de quoi il s'agit.
Par exemple, on a eu du mal à comprendre, mon épouse et moi, en fait, la création... D'un parc à chiens. Donc en fait il s'agit d'un parc pour amuser les chiens. Il y a des jeux pour chiens, des bascules, il y a très peu, on passe souvent à côté, il y a peu de gens qui y vont, il n'y a quasiment jamais personne. Et puis là en l'occurrence c'était un petit peu pour correspondre à la demande de certains électorats. Ouais.
Et il y a d'autres projets à votre avis qui pourraient être plus intéressants et qui ne voient pas le jour?
C'est un petit peu mon sentiment. Oui, ouais.
Selon vous, il y a des enjeux plus importants à traiter dans la ville, quoi.
Il me semble effectivement. Ouais.
Pourtant, le budget participatif peut donner envie de s'investir dans la vie locale à des gens issus de tout type de milieux. Jihad Bourouba a 27 ans, il a grandi dans un quartier populaire, celui des résidences à Belfort. Il travaille en tant que médiateur social pour la ville et il veut créer dans son quartier un espace de workout, sport en extérieur.
Vous savez, ça part de rien, une idée. Hein. On est là sur un banc avec des copains. Ouais, les gars, ce serait bien de développer ça. Ce serait bien de développer ça. Ouais, c'est vrai qu'il manque ça. Alors, on a aussi pas mal voyagé. On a bougé. On a visité la France. On a vu qu'il y avait des choses dans d'autres villes. Et puis, on veut un peu importer tout ça. Alors, voilà, nos voisins mulhousiens en Alsace ont des espaces workout, par exemple. Et puis, c'est là où l'idée de créer un espace workout est venue, par exemple.
Donc voilà, ça c'est un projet que vous avez dans le cadre du budget participatif, c'est de créer un espace workout.
Effectivement, ouais, c'est ça, on est une bande de potes et puis donc on pratique aussi un petit peu la boxe avec le club Royal Team des résidences. Bon, voilà, encore une fois, c'est un club des résidences qui est en pleine expansion, qui évolue, qui se diversifie, parce qu'au début le Royal Team proposait la boxe thaï, maintenant la boxe anglaise. Donc l'espace workout, ça viendrait un peu compléter tout ça. Ben, ce serait une fierté pour nous, habitants des résidences, d'avoir notre espace workout, sachant qu'il y a la demande. On est beaucoup de jeunes à vouloir le pratiquer. On a un petit espace musculation aux résidences, on aimerait le développer. Ça viendrait dynamiser un peu plus le quartier des résidences. Et puis un espace workout, vous pouvez regarder sur Internet, hein, il y en a des très beaux, des très jolis. Ça viendrait aussi embellir un peu le parc des résidences, par exemple.
Donc c'est une idée que vous avez eue avec des amis?
Ouais, c'est ça, on s'est dit pourquoi pas. Hein. Puis finalement, on a réfléchi à la question, on s'est posé et puis on a poussé un peu plus la question sur les questions techniques, combien ça coûte, où c'est qu'on peut trouver ça, tout ça. Puis on a appris qu'il y avait le budget participatif qui pouvait aider au financement. Et voilà, donc là, on y travaille actuellement.
Et votre projet rêvé, il ressemblera à quoi?
Ah ouais, ce serait un super parc avec beaucoup de bars, beaucoup de prises où on peut développer un max d'exercices. Il faudrait que ce soit aussi une infrastructure ouverte à tout le monde. Jeune ado jusqu'à 3e, 4e âge, adapter les infrastructures.
Mais c'est-à-dire que ça sera un lieu de sport et aussi un lieu de rencontre intergénérationnel?
Forcément oui, un lieu de rencontre, un lieu où on pourrait tout simplement venir se rassembler, venir voir un peu les potes, s'entraîner, peut-être pourquoi pas organiser des compétitions. Donc on a même on a une vision assez large de ce projet et puis voilà.
Jarny est une petite commune de Meurthe-et-Moselle qui a pour particularité d'être l'un des budgets participatifs les plus anciens et généreux de France. 250 000 euros pour quelques 8 300 habitants, ce qui représente à peu près 30 euros par habitant. Cette ville a désormais une longue histoire avec la démocratie locale. Lison Bernou est chargée de mission sur le sujet à la mairie. Elle revient sur la création du budget participatif. La ville avait été la 4e de France à le faire en 2009, à une époque où le sujet n'était encore pas du tout à la mode.
Les comités de quartier avaient été créés depuis 7 ans et ils avaient beaucoup travaillé sur l'évolution de chaque quartier, avec beaucoup de travaux qui avaient été réalisés et qui avaient transformé la ville, ce qui correspond à un historique particulier à la ville de Jarny. Et une fois qu'ils avaient fait tous ces travaux, qu'ils avaient travaillé, qu'il y avait eu énormément de réflexions collectives, il avait semblé nécessaire d'aller plus loin. Et donc le budget participatif, ça avait permis de partager avec eux les questions budgétaires. Et en fait, c'est fondamental pour une collectivité, puisque le budget, c'est l'acte le plus important d'une collectivité. Donc à partir du moment où on veut faire de la démocratie participative, à un moment, ça devient une nécessité de développer la participation aussi sur la question du budget.
Ça a commencé donc en 2009, on était sur quel ordre de grandeur de somme à peu près?
En fait, on a tout de suite commencé avec 200 000 euros, ce qui représente 5% de notre budget d'investissement. Et là encore, ça s'inscrit tout simplement dans la continuité logique de ce qui était fait jusqu'à présent, c'est que quand on a un tel historique en démocratie participative, qu'on a un tel engagement, on ne peut pas faire dans la demi-mesure. Et donc on est tout de suite parti sur une enveloppe qui est aussi généreuse et qui a encore évolué au fil des années, puisque l'année dernière on est passé à 250 000 euros, ce qui représente 6% de notre budget d'investissement. En novembre 2018, la Fondation Jean Jaurès, ensuite relayée par Le Monde, a indiqué qu'on était le deuxième budget participatif le plus généreux de France, derrière Paris, la capitale du pays.
Grande fierté pour vous alors.
En sachant en plus que Paris n'est qu'à 5% de son budget d'investissement.
Il faut vraiment faire l'amplitude maximum, tout suite, vraiment descendre et Paris de l'autre côté.
À Jarny, cette culture de la démocratie participative a pour effet d'impliquer dans la vie de la cité des habitants qui ne s'y intéressent pas spécialement au départ. Nous voici dans une salle de sport. Thomas Messager, 34 ans, en est l'un des gérants. Petit à petit, il a vu l'endroit s'animer avec des débats à propos d'installations à faire sur la commune. Le budget participatif, vous en avez entendu parler comment, à quelle occasion ?
À vrai dire, j'ai certainement la dame qui s'en occupe, qui venait faire du sport ici. Et elle m'a amené donc des documents m'expliquant le concept, quoi. Et puis les documents, on les a mis à l'entrée, et puis les gens, ils ont commencé à remplir, chacun leur avis. Donc j'ai entendu directement par la personne concernée, en fait. Et puis ça roulait comme ça. Pendant 2-3 semaines, on a mis... Il y avait une urne à l'entrée, on mettait nos avis différents, tout le monde a mis un peu ce qu'il voulait.
Les gens étaient très concernés, ça marchait
bien. Vu l'urne qu'ils ont mis, je me suis dit bon, ils sont un peu emballés. Maintenant, il y a eu énormément de monde qui ont répondu. Ouais. Et il y a eu un beau suivi derrière parce que, enfin moi pour ma part, j'ai reçu des mails pour me tenir au courant, etc. C'était bien. Moi, je me souviens quand on était jeune, on demandait beaucoup de choses avant. Hein. Je me souviens gamin, on demandait d'avoir un skatepark et tout ça. On n'arrivait pas. Maintenant, bah voilà, il y a des skateparks un peu partout. Il y a des petits city stades, il y a des aires de jeux. C'est une chance qu'ils ont les jeunes et les enfants maintenant. Voilà.
Et alors donc, en voyant ça, vous, ça vous a donné envie de participer, de proposer des choses?
Bah oui, parce que c'est tellement rare finalement, que surtout au contexte actuel, de pouvoir donner son avis sur des choses concrètes. Là, c'est direct, quoi. Moi, tout ce que j'ai proposé, j'ai vu des résultats et c'est plutôt rare finalement. Donc ce serait bête de ne pas y participer, parce qu'en y participant, bah, ça s'est réitéré tous les ans. Donc j'y participerai à chaque fois que ça sera là, hein, franchement.
Et vous avez proposé quoi alors?
Moi, j'ai proposé du sport en extérieur, parce que c'est ce qui manque chez nous. Je sais pas comment on appelle ça, pour ranger les vélos, histoire d'inciter les gens à rouler un peu plus en vélo. Des aires de jeux pour les enfants, parce que c'est vrai qu'on en a, mais il faut prendre la voiture les trois quarts du temps, donc c'est pas intéressant. Et là, finalement, ça a été écouté, ils en ont mis vraiment à plein d'endroits.
C'est-à-dire tout ce que vous avez proposé a été retenu?
Tout ce que j'ai proposé a été retenu, ouais.
Allez, encore deux. Une... Deux, on bloque en haut et on repose. Impec, c'est bien.
Julien Galvani, 25 ans, vient souvent s'entraîner dans cette salle de sport. Il a voté pour mettre en place un espace de workout dans la ville de Jarny.
Parfait, bon geste. Ouais, voilà.
Comment est-ce que vous avez entendu parler du budget participatif?
C'est en fait Julien, le responsable de la salle, qui a mis une affiche en fait à l'entrée en disant qu'il y avait un budget participatif, qu'on pouvait participer, donner des idées, et du coup, ben, il y avait plusieurs thèmes, et nous, on a choisi ça par rapport au sport, en fait, parce qu'il n'y en a pas ici, des trucs comme ça. Pour être un peu plus précis, des complexes, on va dire, une cage avec, pour faire des tractions, tout ce qui est un peu du workout, c'est-à-dire des cages pour faire les tractions, des pompes, tout ça.
En extérieur?
En extérieur, ouais, bien sûr, en extérieur, et au final, ça a été fait, il n'y a pas très loin d'ici, à côté d'une forêt, donc c'est accessible, c'est gratuit, tout le monde peut y aller, on peut courir à côté, donc pour les joggeurs, tout ça, c'est bien.
Et cette idée de faire participer les gens comme ça au budget de la ville, c'est la démocratie locale, c'est quelque chose dont il faut s'inspirer à votre avis?
Moi je suis pas trop votant en vrai, ouais, je vote pas trop, mais pour ça ouais, je trouve que c'est bien, ça reste proche des gens, quoi. Il n'y a pas trop de faux en vrai. Ça parle direct aux gens, donc on vote, si c'est accepté, c'est fait, et puis tant mieux, quoi.
C'est-à-dire aux élections, de manière générale, vous votez pas?
Non, je vote pas moi, non, je vote pas, c'est pas pour moi ça, je vote pas, je laisse ça aux autres, non, je vote pas.
Mais au budget participatif, vous votez?
Non, franchement, au budget participatif, parce que c'est, voilà, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, donc c'est sûr que c'est tout de suite plus intéressant, quoi. Mais non, sinon, je vote pas. Pour l'instant, en tout cas.
Et là, ça vous a donné envie, cet espace de workout? Vous vous êtes dit, allez, je donne ma voix?
Je me suis dit, ouais, je donne ma voix pour ça, quoi. C'est un truc qui ne s'engage à rien, ça force les gens à rien, ça supprime rien, ça fait que d'ajouter quelque chose en plus pour les gens qui ont envie de faire de l'exercice, quoi. Puis ça peut donner aux gens l'inspiration pour se mettre au sport. Tant mieux, hein. Tant mieux, voilà.
Un, allez, encore une. Ouais, super.
Direction Metz maintenant. Le budget participatif a été lancé en 2014. Il est de 540 000 euros pour quelque 117 900 habitants. Environ 4,70 euros par habitant donc. Dans la ville, le débat est assez vif sur le sujet. Le principe a vraiment ses partisans et ses opposants. Jérémy Aldrin est conseiller municipal d'opposition à Metz. Il se souvient de la mise en place du principe il y a 5 ans.
Je dirais le premier réflexe, c'est de dire pourquoi pas. Parce que chacun a bien conscience qu'il y a un rapport nouveau à inventer entre l'élu et nos concitoyens dans la manière de faire de la politique, dans la manière d'exercer les mandats. Et donc, on ressent ce besoin de faire différemment. Donc, dans un premier temps, je dis pourquoi pas. Et même, j'ai voté les premiers budgets participatifs. Avec le recul et l'expérience, je pense que c'est plus quelque chose aujourd'hui qui gadget. Cette année, la ville de Metz a décidé de verdir son budget participatif en faisant un budget participatif sur l'écologie. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 3 arbres ici, 4 arbres par là, végétalisation de telle rue. Et donc là, on est sur la politique gadget. Soit on a une vraie politique une ambition, par exemple, de dire il faut faire un plan de végétalisation parce qu'on sait qu'il faut lutter contre les îlots de chaleur, qu'il faut remettre de la verdure, parce que c'est notamment un des moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Et dans ce cas-là, c'est une ambition, c'est un plan qui est ensuite décliné et qui peut être décliné en associant, et qui doit être d'ailleurs décliné en associant nos concitoyens. Mais en faisant cela, ben, on fait du bidouillage, quoi. On fait du gadget ici, là. On va dire, ah ben moi, j'ai 3 arbres, ben, mais vous en mettez 4 dans quel autre quartier? Et puis l'autre va dire, ben, n'oubliez pas non plus tel quartier, donc on en met 5. Et puis finalement, on passe à côté d'un objectif, par exemple, si je décline cet exemple, d'un plan de végétalisation qui doit être ambitieux et à l'échelon de la ville, ce qui n'interdit pas, évidemment, à un moment de concertation, un moment ou un autre, mais présenté comme ça, je pense qu'on passe à côté des vrais sujets. Moi, je suis pour mettre les votations citoyennes. Je crois que nos concitoyens ressentent un besoin très fort de s'exprimer, de prendre la parole. À Metz, par exemple, on fait un budget dit participatif, mais on n'a pas donné la parole aux habitants pour faire, par exemple, une votation sur les rythmes scolaires. C'est invraisemblable. C'est un sujet qui touche énormément de familles. Il y a plus de 9000 enfants qui sont scolarisés. Et sur un sujet aussi impactant, là, l'avis des habitants n'est pas consulté. Donc, vous voyez, entre quelque chose d'aussi important pour la vie quotidienne de nos familles, de nos concitoyens, et mettre 2 bancs ou 3 arbres, je crois qu'on n'est pas sur la bonne échelle. Et donc, moi, je suis pour des votations citoyennes qui soient soit délibératives, soit consultatives. Mais on le dit très clairement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déception. Une votation délibérative, c'est de dire le vote qui sortira sera appliqué. Sur les rythmes scolaires, je mettrai 3 ou 4 propositions. Les médecins choisiront en étant informés par les conseils d'école et par des réunions d'information en amont. Et ce qui sera voté sera appliqué. Ou alors des votations consultatives pour dire, on a plusieurs possibilités d'aménagement, lequel préférez-vous? Et ce n'est pas forcément celui qu'on va retenir, mais on va consulter et en tenir compte.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de succès, c'est-à-dire le budget participatif? Il y a un nombre très important là de villes qui s'y sont mises depuis 2014. Il y a beaucoup de gens qui proposent des projets, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a l'air quand même de rencontrer un certain engouement. Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, on peut dire aussi que c'est un effet de mode.
Parmi les autres opposants, Yves Wendling, conseiller municipal LR à Metz, est lui aussi très critique.
Je critique pas forcément tous les projets. Il y a eu certains projets qui ont eu des problèmes parce que justement, il suffit pas d'être habitant d'un quartier pour justement disposer et avoir le sens de l'intérêt général de l'ensemble du quartier. On a eu un couac à Metz puisque les habitants d'un quartier avaient décidé de rénover une place. Or, les gens qui habitaient juste aux abords de cette place s'y sont opposés au dernier moment quand ils ont appris qu'il y avait un projet. Parce que ceux qui avaient décidé ça n'habitaient pas sur place. Ils habitaient 100 mètres, 300 mètres plus loin. Et qu'ils avaient décidé qu'à cet endroit-là, il fallait faire quelque chose. Simplement, les gens qui habitent vraiment à cet endroit-là n'y étaient pas du tout favorables. Donc, faire croire que c'est les citoyens qui décident directement, c'est pas tout à fait juste. Parce que ce sont pas les citoyens qui décident de là où ils habitent. Ils habitent effectivement dans un quartier, mais c'est pas pour ça qu'ils ont plus de légitimité que d'autres à décider. Alors après, évidemment, il y a des choses qui ont été faites, qui sont bien, qui sont intéressantes, etc. Mais encore une fois, je pense qu'un élu qui est présent sur le terrain, qui au contact de la population aurait pu faire exactement la même chose.
À ceux qui disent que le budget participatif permet aussi justement de proposer des idées auxquelles les élus eux-mêmes n'auraient pas pensé, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que ça peut être quand même une vertu du système?
Un élu qui fait bien son travail et qui est sur le terrain toute la journée, il rencontre beaucoup de gens qui lui parlent, qui lui donnent des idées. C'est pas besoin de se faire dans un cadre conventionnel en organisant des réunions publiques. Donc pour moi, c'est pas forcément un argument. Et puis vous savez, la démocratie participative, quand vous organisez des réunions où vous faites des appels à projets, c'est aussi souvent un peu celui qui parle le plus fort qu'on entend le plus. Et le projet qui est retenu, c'est celui qui saura le mieux le vendre, celui qui saura le mieux s'exprimer pendant la réunion. C'est pas forcément la bonne idée de celui qui est timide et qui est au fond de la salle, qui n'osera pas la donner, qui sera retenu.
Thomas Scudéry est adjoint au maire de Metz à la citoyenneté et à la démocratie participative. Il répond à ses critiques. Alors oui, convient-il, il y a des difficultés, mais pour lui, ça vaut quand même largement le coup.
Les premières difficultés qu'on a rencontrées, c'est le problème de lien avec les habitants qui n'avaient pas intégré que ces projets étaient potentiellement réalisables dans leur quartier et que la décision collective a été prise et qu'au moment du premier coup de pioche, là, vous avez des gens qui viennent râler en disant « Nous, on n'est pas d'accord », et vous avez une opposition. Finalement, c'est quasiment des querelles de voisinage. Alors, quand une ville met le doigt dans les querelles de voisinage, je peux vous dire que c'est forcément très compliqué. Donc, on a développé d'année en année aussi des dispositifs de communication qui permettent aux habitants, finalement, d'être informés, et on leur dit « Attention !» Si vous ne participez pas, vous ne pourrez pas demain vous plaindre que nous allons réaliser quelque chose dans votre quartier. Donc maintenant, on fait aussi beaucoup de... Et même si ça a un coût, on fait du boitage, on va déposer dans les boîtes aux lettres de chaque personne aux abords d'un projet qui va être réalisé pour anticiper tous les risques et co-construire aussi avec que les gens soient positifs ou négatifs par rapport à un investissement.
Et comment ils peuvent faire s'ils ne sont pas d'accord, par exemple, avec un investissement qui se fait dans leur voisinage? Ils peuvent contacter la mairie? Comment ça se passe?
Bien sûr. Et surtout, ils peuvent se mobiliser pour dire « Non, ce projet-là ne doit pas passer, donc je vais dans la réunion où là, ça va se décider. » Et puis, je pèse aussi de tout mon poids pour dire « Je ne suis pas d'accord, et voilà pourquoi, et voilà comment. » Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, dans l'usage, dans la réalité de fonctionnement du dispositif, on voit qu'on arrive toujours à trouver du bon sens. Il y a toujours, quand vous avez un plan A et un plan B, mon expérience m'a apprise qu'il y a toujours un plan C aussi. Le plan C, il est citoyen, il est collectif. Il est co-construit. Vous voyez, c'est ça le plan C. Moi, je crois vraiment que c'est une autre façon de faire de la politique et que tout ce qu'on peut faire main dans la main avec les habitants, c'est ce qui doit s'imposer à n'importe quel responsable politique local. Je pense qu'on est en train, avec ce genre de dispositif, de renouer le dialogue et recréer la confiance. Et on ne va pas se mentir, notre démocratie en France, aujourd'hui, elle est malade. Et je pense que le traitement ne peut pas être un traitement massif gouvernemental et national. Je pense que le traitement, c'est de l'homéopathie au niveau des territoires. C'est comment on peut recréer cette confiance et faire que la politique reprenne un sens positif dans l'esprit des gens.
Quelles sont les propositions qui vous ont le plus surpris de celles que vous avez reçues ?
Oh, on a reçu des propositions très originales que personne n'avait imaginé, de faire un ponton réservé aux personnes handicapées pour qu'elles puissent aller pêcher, les personnes à mobilité réduite. Finalement, c'est aussi du bon sens. Voilà, c'est du bon sens, c'est des bonnes idées et c'est des choses auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul.
Je m'appelle Angetel Guy, j'ai 46 ans.
Et donc là, vous êtes en train de pêcher?
Oui, oui. Ça fait 3-4 ans que le ponton existe. Donc ça fait 3-4 ans qu'on peut pêcher en de bonnes conditions.
C'est-à-dire que, en fait, avant l'installation de ce ponton il y a 3-4 ans, pour les personnes à mobilité réduite comme vous, c'était impossible de pêcher. Et vous vous êtes dit, vous-même, vous vous êtes dit, il manque un ponton. Pour les personnes,
moi, je venais à l'endroit où on est actuellement, mais je me mettais par terre.
C'était compliqué.
C'était un peu compliqué. C'était la débrouille. Clairement, c'était la débrouille. Donc, bon, après, il a fallu voir. Je me suis renseigné. J'ai vu avec des gens que je connaissais à la mairie. Ça a été retenu par le budget participatif. Et ça, après, ça a été monté, quoi. Le ponton existe.
En combien de temps est-ce qu'il vous l'avez vu réaliser?
Une bonne année. Un an, entre un an et un an et demi.
Vous aviez déjà eu des activités citoyennes comme ça, ou non, c'était la première fois?
Moi, c'était la première.
Qu'est-ce que vous en pensez, de manière générale, du budget participatif? C'est une bonne idée?
Ça, j'en pense que du bien. Mais il faut faire le tri. Ah, il y a plein d'idées. Hein. Par endroit, par quartier, par... Mais le problème... Il y a des trucs, c'est farfelu.
Vous savez combien il a coûté, le ponton?
12 000.
12 000 euros?
Oui, ben voilà, au moins c'est un investissement qui est rentable, parce que voilà, ça sert. Comme je dis toujours, on met de l'argent des fois sur des choses qui ne servent à rien, alors qu'on pourrait mettre de l'argent sur d'autres choses qui pourraient servir plus. Maintenant.
Et là, c'est un exemple de choses qui servent.
Voilà, ça sert. Bon, je suis pas là tous les jours, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent. Voilà, ça sert. L'essentiel, c'est qu'il existe et qu'on puisse s'en servir.
Pour combien de temps cette ville tiendra sa fierté, son élan? Je me demande bien combien de milliers d'âmes il a fallu pour construire Paname.
Budget participatif, l'outil démocratique qui séduit, reportage Dylan Malka.
Grand Reportage, le magazine de la rédaction, Mathieu Laurent.
Et nous sommes toujours en votre compagnie, Marion Roth, directrice du think tank Décider Ensemble. D'abord, un petit mot sur la fin du reportage d'Ilan. Est-ce qu'on n'est pas là face à une illustration concrète de ce qui passe sous les radars de la démocratie directe?
Oui.
Je parle de l'image finale, hein. Ouais.
Le ponton accessible aux personnes handicapées.
Oui, bien sûr. Oui, oui, effectivement. Moi, ce qui m'a frappé, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir dans ce reportage.
Et vous en aurez le temps.
Mais c'est celle en fait de l'élu qui dit que les élus connaissent, savent quels sont les besoins des citoyens et que finalement il n'y a pas besoin de dispositifs de dialogue comme ça. Et ben, typiquement, ce ponton-là, c'est l'exemple que non, en fait, on n'a pas forcément la science infuse parce qu'on est un élu, parce qu'on rencontre les citoyens. Et c'est un exemple très concret de l'intelligence collective dont on parle très souvent.
Alors, quelques mots avant de poursuivre avec vous sur votre structure. C'est un laboratoire d'idées tel que vous le présentez,
oui.
Créé en 2005 par Serge Lepelletier, alors ministre de l'écologie, et qui est là pour une gouvernance, je vous cite, transpartisane et le développement de la culture de la participation. Alors, qui l'anime? Qui trouve-t-on dans ce Décider Ensemble? Avec qui et comment travaillez-vous?
Alors, petite précision, le think tank a été créé à l'initiative de Serge Lepelletier, pardon, par Bertrand Pancher, qui est député
aujourd'hui
de la
député
Meuse.
De la Meuse.
Voilà, c'est ça. Et qui, à
la République
était...
en marche. Voilà.
Alors, non, Liberté et Territoire.
Pardon.
Et le think tank est présidé par Bertrand Pancher et Mathieu Orphelin, qui était jusqu'à présent...
Membre du groupe La
voilà,
République en Marche,
c'est ça. D'où La République en Marche, et qui maintenant est non inscrit. Et on rassemble des entreprises publiques et privées, des ONG, des associations d'élus, des universitaires, des chercheurs, mais aussi des réseaux d'acteurs issus principalement du développement durable. Et notre objectif, c'est de diffuser ce qu'on appelle une culture de la participation, c'est-à-dire essayer de démontrer quel est l'intérêt qu'il y a à participer aussi bien pour des collectivités que pour des entreprises. Que peut-on attendre de la participation citoyenne, quel intérêt on a, quel objectif peut-on viser et surtout comment on s'y prend concrètement.
Mais alors vous avez là des entreprises de grande ampleur, ADP, Veolia, Suez.
Oui, tout à fait. On a EDF, SNCF Réseau. On a en fait des entreprises qui mènent des gros projets qui peuvent avoir été confrontées par le passé à des gros...
À quel dysfonctionnement justement ont-ils été confrontés ces dirigeants d'entreprise pour venir vers vous?
Alors, principalement à des conflits. Si on prend, par exemple, les SNCF, à l'époque, enfin Réseau Ferré de France, ils avaient été confrontés à des très gros conflits dans les années 80. Ça avait d'ailleurs donné naissance à la Commission nationale du débat public. Et ce qu'ils attendent de nous, en fait, c'est de les aider sur la détection de bonnes pratiques, de pratiques vertueuses de participation, ce qui se fait en France, ce qui se fait à l'étranger et ce qui pourrait être appliqué par eux.
Alors peut-être on en vient cette fois aux collectivités territoriales. 80% des offres de participation, je parle sous votre contrôle, sont portées par des collectivités territoriales, c'est ça?
Oui.
Et quels sont justement les dispositifs de démocratie participative les plus demandés?
Alors, si on met de côté les dispositifs réglementaires qui sont donc imposés par la loi, on a principalement maintenant, alors ça fluctue beaucoup selon les modes, hein, actuellement c'est les dispositifs numériques, donc les plateformes de participation en ligne, ça c'est vraiment les outils...
Vous avez même un baromètre, hein, c'est ça?
Oui, oui, alors nous on a un baromètre, en fait on a un observatoire de ce qu'on appelle les civic tech, donc les technologies civiques et de la démocratie numérique, et en fait ça nous permet d'analyser justement ce qui se fait dans les collectivités, et en fait, voilà, il y a une promesse du numérique qui a émergé depuis quelques temps. On a cette idée que via le numérique, on va arriver à toucher énormément de citoyens très rapidement, des jeunes, des personnes qui ne se déplacent pas dans les traditionnelles réunions publiques. Donc ça, c'est des outils extrêmement à la mode. Et puis les budgets participatifs.
Alors oui, on en vient là. Ilan Malka, voilà. Peut-être une remarque, parce que vous avez relevé au fil de vos reportages quelques petites choses récurrentes, quelques critiques récurrentes. Hein.
Oui, oui, c'est-à-dire que beaucoup des personnes que j'ai rencontrées, et on en entend quelques-uns dans le reportage, m'ont parlé de ce risque qui est de voir finalement... des personnes, quelques-unes issues des classes moyennes supérieures, impliquées déjà dans les conseils de quartier, un petit peu confisquer la démocratie participative. Est-ce qu'il y a vraiment ce risque, ben voilà, que ces quelques personnes impliquées dans la vie locale, issues un petit peu du même sérail, monopolisent un petit peu la chose, quoi?
Oui, c'est une critique qu'on fait très régulièrement aux mécanismes de participation citoyenne, mais pas que les budgets participatifs, c'est n'importe quel dispositif. Effectivement, on a le phénomène de ce qu'on appelle tous les mêmes, donc toujours les mêmes personnes, principalement les vieux mâles blanc retraité avec un.
Ah, c'est présenté comme ça alors.
Oui, oui, c'est présenté comme ça avec voilà beaucoup de diplômes, des anciens ingénieurs ou quoi. On passe à côté des personnes qui vivent dans des quartiers plutôt populaires. On passe aussi, on l'oublie assez souvent, beaucoup à côté des trentenaires, des jeunes actifs qui n'ont pas le temps d'aller dans ce type de dispositif. Donc effectivement, c'est un problème qu'on a. Mais j'apporterai quand même une nuance, les collectivités en sont conscientes et elles font de plus en plus d'efforts dans la définition de leur dispositif pour aller chercher ce type de public.
Et il y a aussi quelques exceptions, hein. On a entendu par exemple ce jeune de 27 ans qui veut
faire construire... qui en vient à voter. Hein.
Ouais. Ouais, oui, et puis celui aussi à Belfort qui veut faire construire un espace workout, l'exception se trouve aussi. Quoi.
Est-ce qu'on n'est pas, pardon Marion Roth, mais est-ce qu'on n'est pas face à des sujets, des thèmes, des projets relativement consensuels jusqu'à maintenant?
Alors...
Vous qui avez une vue aérienne, et puis 14 ans, c'est ça, de recul?
Oui, c'est vrai que c'est plus facile de mettre en place des projets qui sont consensuels. Pour autant, c'est pas parce qu'ils sont consensuels qu'ils ne sont pas nécessaires pour le territoire.
Valide, nécessaire,
voilà.
Urgent.
Et tout dépend en fait de l'utilisation qu'on fait de la participation citoyenne. Effectivement, dans un budget participatif, étant donné qu'on passe par un vote citoyen, c'est forcément les projets qui rencontrent le plus d'adhésion qui vont être réalisés. Mais on a des dispositifs qui permettent, par exemple, les conférences de citoyens, vous réunissez des citoyens, vous les formez pendant plusieurs week-ends et vous leur demandez à la fin de rendre un avis éclairé. Ce type de dispositif, ça permet de trancher vraiment sur des questions volontairement problématiques.
Mais 150 villes sur 36 000 communes, je parle sous votre contrôle.
Oui, oui, c'est ça. 130 villes même, parce que c'est 150 collectivités.
130, exact. C'est finalement assez peu, alors que la démocratie participative existe dans les discours, et depuis plusieurs mandats présidentiels, d'ailleurs en 2014, c'est François Hollande, je crois, qui en fait la promotion. Emmanuel Macron en a aussi, et là je vous tourne vers vous, est-ce que le grand débat national, c'est de la démocratie participative? En passant.
C'est une forme de démocratie participative quand on parle de démocratie participative.
En tout cas, c'est la ligne de votre site et vous en êtes co-réalisateur, je crois.
Quand on parle de démocratie participative, on parle en fait de plusieurs échelles de participation qui vont de l'information à la co-décision et le grand débat et ce qu'on appelle la deuxième échelle, c'est-à-dire que c'est de la consultation.
Alors, l'abstention, malheureusement, comme je le disais en introduction de cette heure de grand reportage, campe toujours au sommet. Est-ce que ça dit pas l'échec au long cours de ces tentatives de démocratie participative, délibérative? D'ailleurs, il y a peut-être un distinguo à faire.
Alors, oui, il y a un distinguo à faire.
Tirer au sort pour délibératif et puis participatif,
alors, pas forcément,
non?
Mais c'est plutôt que dans la démocratie délibérative, on va vraiment chercher à permettre aux citoyens de délibérer entre eux et de rendre un avis commun, alors que la démocratie participative, on va rechercher les intérêts plutôt individuels avant de se faire sa propre opinion. Oui, pardon.
Ben, le constat que l'on fait, il y a des mois, et bien d'autres d'ailleurs, c'est que l'abstention est toujours là et la désaffection pour la politique, notamment auprès des plus jeunes, est toujours très haute,
oui,
très forte.
Mais alors, bon, c'est dû à plusieurs facteurs. D'une part, la démocratie participative, elle se développe principalement à l'échelle locale et en fait, la politique cristallise beaucoup de tensions à l'échelle nationale. En France, on n'a pas une vraie politique participative à l'échelle nationale. Alors, on commence à l'avoir avec le grand débat, mais enfin, c'est assez récent. On a aussi le problème, c'est que souvent, on a tendance à confondre démocratie locale et problématique de proximité. Les citoyens sont assez peu consultés sur des grands projets d'ampleur et des projets majeurs, on va plutôt les questionner sur des petites problématiques du quotidien, des problématiques de cadre de vie. Donc finalement, ça ne règle pas vraiment les problèmes d'intérêt pour la politique. Néanmoins, ce type de dispositif, ça peut avoir quand même un intérêt. Les budgets participatifs ont plusieurs vertus. Alors oui, on a parlé des problèmes, mais enfin, ils ont quand même comme vertu, un, d'abord de permettre de remettre de la transparence dans le circuit de décision.
C'est un mot important, c'est un mot clé.
C'est un mot à l'heure actuelle, quand on est face à la défiance qu'on a envers les institutions et toute forme d'autorité, la transparence, c'est le mot-clé. Donc, les budgets participatifs ont cette vertu-là. Ils permettent aussi de faire de la pédagogie. Qui sait ce qu'est un budget d'investissement? Comment fonctionne une collectivité? Et ça a aussi des effets internes aux collectivités. Ça permet d'avoir plus d'horizontalité entre les services.
Alors, un dernier point, c'est vous qui l'abordez, Ilan.
Oui, alors, chez nos voisins européens, comment est-ce que ça se passe, par exemple, au sujet de cette question des budgets participatifs? Et est-ce que comparer peut avoir un sens?
Oui, c'est toujours intéressant de comparer dans le sens où ça nous permet de nous en inspirer. Au niveau des budgets participatifs, par exemple, l'Allemagne a une vision totalement différente puisque eux, les budgets participatifs ont été instaurés principalement dans un contexte de restrictions budgétaires des communes et donc pour eux, les budgets participatifs servent à faire en fait des choix de restrictions avec les citoyens.
Par nécessité, là.
Voilà, absolument. Alors on a un exemple en France qui l'a fait, c'est Loon Plage, 300 000 euros de restrictions budgétaires. Quel choix faisons-nous ensemble? Sinon, après Après, au niveau européen, il y a d'autres dispositifs qui sont intéressants. Du côté de la Belgique, là, depuis quelques mois, par exemple, le tirage au sort devient extrêmement à la mode. La communauté germanophone, qui est la troisième communauté du pays, a décidé de se doter d'un parlement miroir composé de citoyens tirés au sort. Et là, il y a une liste qui va être déposée dans le cadre des élections fédérales, composée uniquement de citoyens tirés au sort.
Alors, au Portugal, dans la Constitution depuis 1982, c'est ça ?
Alors, au Portugal, il y a une vraie volonté d'avoir des budgets participatifs. Alors, l'innovation au Portugal, c'est que le pays a mis en place un budget participatif au niveau national. Donc, vous avez un petit bus qui circule dans le pays pour faire la promotion du budget.
D'un dernier mot, Marion Rotet, très vite. Qu'est-ce qui a fait avancer la démocratie participative en France ces 15 dernières années ?
Alors, principalement, beaucoup les conflits autour des grands projets d'aménagement et les conflits environnementaux. Encore récemment, on a eu Sivens et Notre-Dame-des-Landes. À la suite de Sivens et de la mort notamment du militant de France Nature Environnement, Rémi Fraisse, ont été prises des ordonnances qu'on appelle sur le dialogue environnemental qui ont permis les dernières avancées en matière de participation citoyenne.
Ainsi se referme cette émission, ce grand reportage. Merci à vous, Marion Roth,
merci beaucoup.
Directrice du think tank Décider Ensemble. Merci à vous, Ilan Malka, pour merci. Votre reportage. Budget participatif, l'outil démocratique qui séduit, grand reportage signé Ilan Malka, réalisation Annie Bro, à la technique Nicolas Selimani. À retrouver bien sûr avec d'autres données dans une version augmentée, dirons-nous, sur franceculture.fr.